C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 79, au sommaire aujourd'hui. Les hauts et les bas des familles queer en 2024. On parle aussi de dépendance à la chronique en toute fluidité. Portrait d'écrivains et d'écrivaines du Québec, dont plusieurs de nos communautés avec Mathieu Lacat. Et c'est notre dernière chronique de la saison, ma chronique, donc ma vie en cinéma queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 3 juin 2024. Ben, on n'est peut-être pas du monde, mais on est juste nous, puis on est bien contents.
Écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Être une famille queer en 2024, c'est peut-être pas devenu une routine parce que j'aime rien de routinier d'avoir une famille ou d'être une famille, mais c'est quand même beaucoup plus facile que ça l'était. On a fait des progrès, mais ce n'est pas toujours parfait. Il y a encore des irritants. Et pour en parler, je vais parler avec Eugénie Lépine-Blondeau, qui est chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Elle et sa conjointe, donc, ont eu un petit enfant, un petit garçon, au début du mois de mai. Et bien, ils ont connu certains petits problèmes. On va en parler. Alors, allô, Eugénie?
Bonjour, Denis Martin. Ça va bien?
Ça va bien. Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et puis, merci. Comme c'est la première fois qu'on t'interviewe, on demande toujours à nos invités quels pronoms et quels accords il ou elle, oui, elle veut utiliser.
Oui, alors, c'est l'accord, c'est avec elle, donc elle, la, etc.
Féminin,
donc, voilà.
Pas de problème.
Féminin.
Oui. Et on te reçoit, en fait, à l'occasion de la Journée mondiale des parents, en passant. Et d'abord, comment ça va, toi, après la grossesse et la naissance? Je pense que c'est la première chose à poser à une femme qui a donné naissance à un enfant, n'est-ce pas?
On m'avait bien dit que ça changeait une vie, puis c'est bien vrai. C'est bien vrai. Avoir un enfant, ça change une vie. Ça fait quelques semaines maintenant, puis c'est drôle parce que effectivement, je suis chroniqueuse culturelle depuis 5 ans à l'émission Tout un matin à Radio-Canada, puis j'ai l'habitude de me coucher très, très tard, d'aller voir des spectacles qui commencent à 20 heures. Aujourd'hui, je me couche quasiment à 20 heures, c'est-à-dire si mon enfant dort, fait un premier stretch vers cette heure-là, je vais me coucher rapidement. Donc, ma vie a totalement changé. Par contre, ça m'a quand même un petit peu habituée, cette vie-là, de chroniqueuse culturelle à avoir un sommeil rompu, interrompu, on peut dire ça. Donc, c'est ça. Mais c'est formidable. Ma conjointe et moi, forcément, c'est un projet qu'on caressait depuis vraiment longtemps. Donc, dans les moments plus difficiles, on se rappelle que personne ne nous l'a imposé, cette vie-là, puis on l'a vraiment voulu. On a un petit garçon formidable. Donc, pour
justement...
ça, c'est chouette.
Comment va-t-il? Le petit Miro, comment est-ce qu'il va?
Oui, il va très bien. C'est un petit garçon très vigoureux. Il y en a dedans. On sent déjà sa petite personnalité. Mais c'est un bébé de quelques semaines. C'est-à-dire qu'il dort, il dort pas au moment où on veut. Il boit beaucoup, puis il pleure beaucoup. Mais on aperçoit déjà des sourires, puis il tient notre regard. Donc ça, c'est vraiment très touchant.
C'est quand même formidable qu'en 2024, deux parents queer puissent donner naissance à un enfant. Parce que c'était pas si simple que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, comment ça s'est passé pour toi et ta conjointe?
Tu veux dire l'accouchement
tout le processus.
Oui,
commençons là parce que c'est pas juste l'accouchement. Bien que l'accouchement, je suis certain que c'est quelque chose de très compliqué puis j'expérimenterai jamais ça, mais quand même, oui.
Non, ma conjointe et moi, ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait bâtir notre famille. Donc, ça a pris quelques années, justement, là, en clinique de fertilité pour arriver à la conception de notre petit garçon Miro. Donc, ça a pris, c'est ça, beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de temps, énormément de temps. Et ça, je pense que les familles qui sont en processus là, dans une clinique de fertilité doivent le savoir, beaucoup de résilience, beaucoup de paperasse, de l'argent aussi, forcément. Donc, ça a été un processus à la fois difficile parce qu'il y a eu des échecs, forcément. Puis ça, ça peut être extrêmement triste et peinant, là. Mais il faut persévérer si c'est notre envie. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà. Et puis là, on est heureuse.
Avez-vous eu beaucoup, toi et ta conjointe, de l'appui, du soutien du système en général, des cliniques, les hôpitaux, les médecins? Comment ça se passe que...
Ouais, nous, à la clinique de fertilité où on était, ça a été on est très contente, en fait, là, du service qu'on a eu. C'était une clinique, là, au privé. Je ne souhaite pas nécessairement la nommer pour pas nécessairement faire de la pub, là, comme ça, mais c'est une clinique au privé où on a été très bien reçus, où on a eu un bon suivi, un bon appui, où on a été accueillis aussi. Il y a jamais eu de problème, là, concernant le fait qu'on était une famille homoparentale ou une future famille homoparentale. Donc, nous, on s'est sentis super accueillis. Puis évidemment, ben, nos amis, nos familles aussi nous ont énormément soutenus.
Bon, donc la naissance de votre enfant, à toi et Judith, ça a été, je pense qu'on peut le dire, un des plus beaux jours de votre vie.
Mais ça a été un jour extraordinaire, c'est sûr, parce que surtout après une grossesse de 40 semaines où tu t'imagines c'est qui ce petit être-là qui bouge dans ton ventre, qui donne des coups parfois, qui développe déjà sa personnalité dans son ventre, dans mon ventre, tu sais, fait que je me dis, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de le rencontrer. C'était surtout ça. Donc, c'était la journée la plus difficile probablement de ma vie, mais la plus marquante, très certainement aussi.
Mais il y a un mais, vous avez quand même, toi et Judith, été attristés de constater qu'il y avait un irritant quand même assez important
Ouais.
sur le petit carton là, quand on identifie les nouveau-nés. Peux-tu nous raconter ça?
Ouais, ben en fait déjà dans tout notre parcours, on est allé par exemple à un autre hôpital pour enfants pendant ma grossesse, parce qu'on avait des tests à faire. Puis déjà là, j'avais identifié, puis Judith aussi, ma conjointe, on avait identifié des patterns très hétéronormatifs, surtout dans ce qui est de tout ce qui est administratif. Donc par exemple, c'est ça dans les papiers, c'était écrit mère Eugénie puis père Judith, puis les gens qui remplissent ça, le fond, j'imagine. J'imagine un peu mécaniquement, là, je ne pense pas qu'il y ait une intention mesquine nécessairement derrière ça, mais il n'en demeure pas moins que ça veut dire que les papiers sont faits pour des familles où il y a une mère et un père, ce qui veut dire que ça exclut forcément nous, les familles, donc homoparentales comme nous, mais aussi les mamans solo, les nouvelles familles avec personnes, avec mère porteuse, par exemple, etc. Donc, ça exclut quand même plusieurs modèles familiaux, des modèles triparentaux aussi, etc. Donc, ça nous avait heurté, mais c'est vraiment quand on est arrivé en postpartum après l'accouchement, où on a vu que sur la petite étiquette, là, le papier d'identification du bébé, c'était vraiment écrit mère Eugénie, père Judith. Puis ça nous a fait de la peine d'un, parce qu'effectivement, c'était un jour formidable pour nous. C'est le premier jour dans notre vie de parents. Puis déjà, on a ce sentiment d'être pas dans la norme, d'être anormal, etc. T'sais. Donc ça nous a heurté. Ça a heurté forcément Judith aussi, parce que c'est elle qui était identifiée comme père, alors qu'elle n'est pas du tout le père, là, de cet enfant-là. Puis ça renvoie aussi un peu l'idée que le fait que finalement il n'y ait pas de père, donc qu'il lui manquerait un père, alors que c'est pas vrai. Dans notre modèle parental, il y aura juste il n'y a pas de père, il y a deux mères qui l'aiment énormément, cet enfant-là. Puis c'est le modèle qu'on veut donner. Donc, c'est une petite. Ça nous a fait de la peine. Et on a remarqué aussi dans le carnet de vaccination qu'on a tous et toutes et tous. Le carnet de vaccination, c'est la même chose. C'est écrit père, mère. Et c'est. On pourrait changer ça pour
Parents.
viser justement une société beaucoup plus équitable et inclusive, finalement.
Ça pourrait être juste être parents, finalement, parents 1, parents 2.
Absolument.
Puis ça pourrait être aussi parents 2, parents 3, parents 4, parce qu'il y a des familles avec plusieurs parents. Puis
Ouais.
ça aussi, il faut s'habituer à ça, n'est-ce pas?
Ouais. Puis ça pourrait aussi, tu sais, il y a des gens qui veulent s'identifier comme mère, comme père, tu sais, puis c'est
C'est leur
correct
choix.
aussi, mais ça pourrait aussi être juste on laisse un blanc puis on l'écrit à la main selon comment est-ce que la personne s'identifie. Donc il y a différentes possibilités. Puis moi j'ai fait une petite publication en fait là, à la journée contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, dans laquelle sur Instagram en fait où je disais ben que cette journée-là un peu elle résonnait spécialement cette année, tu sais, parce que on se projetait comme parents queer de famille homoparentale, puis je disais qu'il y avait des petites et grandes avancées à faire partout dans le monde, puis je donnais comme exemple cet exemple-là de ce qu'on a vécu donc en postpartum. Et puis, c'était à l'hôpital jeune homme parce que, bon, après, ça a été dans le journal, mais ça a été au CHUM. Puis, c'est venu aux oreilles, pardon, d'une gestionnaire du CHUM qui m'a appelée, qui nous a appelés comme famille, puis qui a voulu discuter de ça, puis qui tout de suite a dit, ben, on va changer les choses. Donc, le carton d'identification doit être changé là, prochainement, en fait. Et ça a été vraiment touchant de voir ça parce que ça s'est fait dans le respect puis dans l'écoute.
Est-ce que tu t'attendais à une telle réaction à la suite de cette publication qui était toute simple? Moi, je te suis
Ouais.
sur les réseaux sociaux, c'était tout simple. J'ai
Ouais.
réagi, j'ai dit, il faut que je l'interviewe. Puis là, j'ai vu que je n'étais pas tout seul qui a eu la même idée.
Ben, en fait, je m'attendais pas à une réaction. À tant de réactions de la part de mes pères, par exemple, là, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, des fois, je sais un peu qui me suit, avec qui j'interagis. J'ai une communauté, tu sais, je fais partie d'une communauté queer, donc je suis ces gens-là sur les réseaux sociaux, ils me suivent aussi. Donc, je m'attendais à peut-être des gens qui me disent, ah ben oui, c'est vrai, mais j'ai eu tellement de témoignages, et ça, j'en suis vraiment pas revenue, là. Les gens qui vivaient, qui avaient vécu la même chose, autant il y a un an qu'il y a 20 ans, par exemple. Donc, ça m'encourageait quand même à me dire, ben, d'un, on n'est pas tout seul, puis de deux, ça a vraiment alimenté la conversation. Mais je m'attendais absolument pas à une réponse du CHUM. Puis la raison, le but, c'était pas non plus, je les ai pas identifiés dans ma publication non plus. T'sais, mon but, c'était pas de lancer une flèche au CHUM parce que, outre ça, on a eu un accompagnement extraordinaire et vraiment bienveillant de la part du personnel pendant l'accouchement et tout ça. Donc, je voulais pas nécessairement ne jeter la pierre sur personne. Et puis la raison pour laquelle j'en ai pas parler directement au CHUM, c'est que j'avais, dans notre processus de fertilité, dans une autre clinique pour laquelle on n'a pas opté finalement, j'en avais parlé de ces papiers-là administratifs très hétéronormatifs, puis il m'avait dit, ben écoutez, madame, c'est des trucs qu'on imprime en 1 000 copies ou en 10 000 copies il y a 10 ans, puis on va pas les changer. Puis je me suis dit, ben ça doit être la même chose au CHUM, donc je me suis même pas essayée. Donc j'étais vraiment agréablement surprise de voir que finalement, ben, c'est le CHUM qui a été proactif finalement. Puis ça, c'est encourageant.
Écoute, il reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Là, on peut, parce que tu es en congé, mais on peut quand même t'entendre à nouveau. Tu es sur Audio, une balado sur
Ouais.
la maladie de Parkinson. C'est intéressant, ça.
Ouais. Ben, en fait, c'est que mon père a été diagnostiqué avec cette maladie-là il y a quelques années. Puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est une maladie que moi, je connaissais pas beaucoup. Puis, je me rends compte que je pense pas que c'est une maladie que les gens connaissent vraiment énormément non plus. On peut avoir en tête, par exemple, Michael J. Fox ou sinon, on a des idées reçues des gens qui ont des tremblements, etc. Mais c'est une maladie qui gagne à être connue parce que c'est la deuxième maladie en importance, là. La deuxième maladie neurodégénérative en importance au Canada, ça touche énormément de monde, puis on pense que ça va toucher de plus en plus de gens d'ici 2030. Donc, j'ai commencé à m'impliquer avec Parkinson Québec, qui est un organisme, bon, comme le nom le dit, là, qui accueille autant des gens qui sont diagnostiqués que leurs proches, par exemple, donc avec des renseignements, avec de l'aide, etc. J'ai commencé à me renseigner, puis j'ai développé vraiment une bonne relation avec cette équipe-là, avec l'équipe de Parkinson Québec. Puis ils m'ont proposé d'animer un balado pour faire connaître la maladie. Donc, c'est 4 épisodes de 20 minutes. Je pense sincèrement que ça s'écoute assez bien.
Ouais.
Il y a des témoignages qui sont formidables là-dedans. Le but, c'est de. La mission de ce balado-là, c'est d'informer à la fois les gens qui sont touchés par la maladie, mais aussi les gens qui veulent juste en apprendre davantage. Donc, informer puis soutenir là, via le balado qui est disponible, comme tu disais, sur la plateforme audio.
On n'aura pas le temps d'aller plus loin que ça, mais je voudrais quand même souligner qu'on va aussi te voir, je ne sais plus quelle date déjà, pendant Fierté Montréal, combat des tubes.
Le 8 août, combat des tubes contre Claudine Prévost et Catherine Pogonat. Ça va être juste avant la super soirée IMIX, là, où on va voir sur scène, entre autres, Marjo Hélissapi, Mitsou et d'autres. Donc, le 8 août au Parc Olympique, de 18 h à 20 h. Je connais pas plus de détails, mais je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, un combat des tubes, la meilleure musique queer, je présume. Je prends
J'imagine.
toutes les suggestions, en tout cas, Denis Martin. Si jamais tu as ta chanson queer préférée,
Je vais
là,
t'écrire,
tu me diras
c'est
ça.
clair. Jenny Lépine Blondeau, on va te souhaiter quand même quelques nuits de sommeil entrecoupées
Merci.
et au plaisir de te revoir très bientôt. Merci beaucoup et félicitations encore.
Merci pour l'invitation. Bye bye.
Merci.
En toute fluidité. avec Marie-Claude Joannis.
Salut Marie-Claude! Oups, Marie-Claude, elle a gelé. Ah, le Zoom nous cause des problèmes ces jours-ci. Alors, on va juste aller un petit peu en musique et on vous revient. Bon, alors, mais Claude, excuse-moi, tu avais gelé. Je ne sais pas pourquoi. Il fait froid dans ton coin?
Non, il fait 30 degrés à l'ombre.
Bon, allons-y, on va essayer, on va espérer que ça fonctionne pour le reste de la chronique. On va parler aujourd'hui de dépendance. Et la dépendance, ça existe à plusieurs formes, mais toi, tu t'intéresses donc drogue, alcool et jeux.
Oui, bien, je pense que c'est important, Denis Martin, d'en parler. C'est l'été qui est là, qui dit été, dit terrasse, bière à tout venant, et consommation de potes et autres substances dans les festivals, un peu partout. Et bien, ça peut être agréable, pris avec modération, mais ça peut aussi créer plusieurs préoccupations pour les gens, puis pour les proches aussi de gens qui consomment. Et c'est pas parce que c'est l'été que c'est plus un problème, puis que c'est pas une réalité pour bien des gens. Donc, je pense que c'est important d'en parler.
Alors, allons-y. C'est quoi la dépendance?
Ben, tu sais, la dépendance, hein, comme tu dis, effectivement, ça peut être des dépendances à la bouffe, au sport, ça peut être différentes formes. Là, on parle vraiment de dépendance à des substances ou au jeu. Le jeu, ça crée un peu le même effet, hein, que la consommation de drogue. Là, ça produit de la dopamine. Ben, ça a les mêmes effets dévastateurs, là, aussi social et psychologique. Donc, dans le fond, c'est un besoin irrépressible et incontrôlable de consommer une substance ou de jouer, puis qui va nous amener à faire certaines actions qui, au départ, vont nous amener du plaisir, mais qui, plus ça va aller, puis moins va nous offrir de plaisir. Plus ça va être difficile, plus il va falloir consommer une grande quantité de cette substance-là ou de jeu pour atteindre le même niveau de plaisir. Et plus ça va amener d'effets négatifs, là, jusqu'à amener peu de plaisir, beaucoup d'effets négatifs pour de plus en plus de consommation et d'impact, là, dans la vie des gens.
Et justement, parlons de statistiques.
Ouais, tu sais, évidemment, on ne sera pas surpris, là, de savoir que les minorités sexuelles sont surreprésentées au niveau de la consommation. On parle, les études sont pas très récentes, mais quand même, on parle, là, d'à peu près 10-12% de la population hétérosexuelle, là, qui aurait des enjeux de dépendance, alors que chez les personnes de la diversité sexuelle de genre, on monte à peu près à 30%, donc une personne sur trois. On a déjà parlé, entre autres, de la consommation sexualisée, qui est un enjeu. Donc, évidemment, quand on consomme, c'est pour combler une souffrance intérieure. C'est un mécanisme de coping qu'on appelle, là. C'est geler une douleur. Donc, on sait que parce que les gens de la diversité ont vécu plus d'intimidation, plus d'agression, caractère sexuel, etc., ben, plus de violence, ben, nécessairement, ils sont plus sujets aussi à utiliser ces stratégies-là.
Est-ce que toutes les consommations sont des consommations problématiques? Parce qu'il y a quand même des consommations récréatives et on dit qu'il y a quand même une personne sur trois, là, qui fait de la dépendance. Les deux autres qui consomment n'ont peut-être pas ce problème-là?
Oui, effectivement, oui. La majorité des gens vont être capables d'avoir une consommation qui va être gérable. Puis des fois aussi, comme à un moment donné, les gens vont voir que ça dérape un petit peu, whoop, ils vont se ramener. Tu sais, on voit de plus en plus de gens qui font des mois sans alcool, ouais, etc. Ou tu sais, des gens qui font, whoop, moi, je fais un an, là, j'ai décidé de faire un an sans consommation. Je trouve que c'était pas si problématique, mais je trouve que là, c'était trop. Tu sais, les gens vont s'auto-gérer aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont être dans différentes étapes de la gestion de leur consommation, qui vont beaucoup justifier leur consommation. Ah, mais moi, j'ai réduit. Ah, mais moi, je travaille quand même. Moi, je pense que les gens aussi ont beaucoup une vision d'une personne qui est toxicomane, une personne qui est alcoolique, une personne qui ne fonctionne plus, qui consomme en se levant le matin. Mais non, là, ça prend beaucoup d'autres formes que ça. Quand les gens sont anxieux, s'ils ne consomment pas, quand ça atteint, quand ça touche à ta vie de couple, à ta vie familiale, quand ça a un impact sur ta capacité à te concentrer au travail, quand, à un moment donné, ça touche à ta santé physique, ta santé psychologique, quand à un moment donné, ta santé financière, etc., ben, tu sais, c'est ça, là, ça commence à un moment donné à avoir beaucoup d'impacts qui sont plus négatifs que le petit moment de plaisir ou de paix que la consommation peut apporter, là.
Maintenant, allons-y pour l'alcool, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Il y a quand même des dangers, là, d'essayer d'arrêter tout ça tout seul. Des fois, ça ne marche pas, ça.
Bien, c'est important de faire une mise en garde, là. Puis souvent, les gens vont penser que les les consommations, les substances qui sont les pires. Là, tu sais, les gens pensent à l'héroïne, pensent, mais en fait, quand moi, j'ai travaillé dans un centre de traitement des dépendances et les substances les plus dangereuses, c'est d'arrêter, tu sais, c'est l'héroïne et l'alcool. Et l'alcool est en est un très dangereux. Donc, l'alcool, ça crée une dépendance, ça crée le corps supplé là, dans le cerveau. C'est un dépresseur du système nerveux central. Puis, le système nerveux central, ça s'occupe dans le fond de la respiration, du rythme cardiaque. Donc, et quand le système, dans le fond, compense quand quelqu'un consomme beaucoup. Alors, si on arrête la substance d'un coup, le corps va continuer à produire des substances qui vont créer des gros problèmes dans le corps. Et ça peut vraiment, les gens disent, ah non, moi j'ai arrêté tout ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, quand on les questionne un peu plus, il y avait des enjeux. Donc le tremblement, c'est ce à quoi les gens pensent spontanément, mais les gens peuvent avoir des acouphènes, ils vont faire de l'anxiété, ils peuvent avoir des hallucinations, mais ils ne s'en rendront pas vraiment compte. Oh, la pièce qui tourne, oh, ouais, je suis un peu étourdie, etc. Mais c'est que ça peut vraiment avoir des enjeux. Puis si les gens arrêtent trop drastiquement, ils peuvent tomber en ce qu'on appelle un délirium tremens. Et là, ils ne s'en rendront pas compte sur le coup là, quand ça arrive et
Le
ça peut mener
délirium
jusqu'à
tremens, c'est quoi? Ben, j'imagine que c'est un
l'enfer.
délire, là, si je peux. Oui.
Oui, c'est un état un peu d'hallucination, de où est-ce que la personne, son cerveau va vraiment dérailler parce que ce que ça crée un tel déséquilibre chimique et hormonal que le cerveau ne fonctionne plus, n'est plus capable de s'auto-réguler. Donc, la respiration va diminuer énormément. Ça peut être dangereux de mourir, là. Tu sais, c'est sérieux. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on surveillait le plus, c'était les gens qui étaient en sevrage d'alcool. Donc, dans le fond, ce qui est important, c'est que si vous arrêtez, puis tu sais, c'est bien beau de dire, ben, moi, j'ai arrêté à Fred, j'ai déjà arrêté à Fred, pas de problème. Ben, oui, mais tu sais, c'est vraiment plus difficile, premièrement. Puis, deuxièmement, mais ça peut comporter des risques pour votre santé. C'est pas parce que vous l'avez déjà fait que là, votre niveau de consommation le permet. Dans le fond, si vous en parlez à un médecin, mais les médecins ils ont un secret professionnel, souvent on va prescrire un médicament qui va juste aider, dans le fond, à suppléer tranquillement la dose d'alcool dans votre système. C'est pas
Ça.
comme la nicotine, là, c'est autre chose, mais c'est juste ça aide à calmer le système nerveux puis à tranquillement là, faire un sevrage
Ouais.
qui va être sécuritaire, en fait. C'est
Ouais,
ça
parce
le but.
que cesser de fumer, c'est une chose, là, mais bon, cesser de boire quand on a vraiment une dépendance, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Parce que là, on a parlé beaucoup d'alcool, mais est-ce qu'on peut voir les mêmes choses avec d'autres drogues? Tu as mentionné l'héroïne tout à l'heure.
Oui, ben, tu sais, c'est sûr que ces substances-là, là, tu sais, on conseille pas de, ça peut, là, arrêter à frette, là, mais habituellement, les gens le font moins aussi. C'est pour ça que je parle plus de l'alcool, là. Souvent, c'est des substances que les gens arrêteront, auront pas tant tendance à arrêter tout ça, là. Fait que, mais oui, effectivement, là, dans les centres de traitement des dépendances, c'est pas toutes les centres de traitement là, qui font l'héroïne et ces substances-là parce que aussi ça a un impact là, sur le système, puis ça prend aussi une supervision médicale. Donc, il y a des centres de traitement des dépendances
Oui.
qui offrent un traitement médical 24/7 et il y a d'autres centres de traitement des dépendances qu'il faut déjà avoir fait un petit début de sevrage ou en tout cas, faut pas se sevrer, faut pas être sevré, donc on peut pas être sevré, pardon, à des substances comme l'héroïne. Donc, c'est ça. Donc, mais ça, c'est pas la majorité des centres. Donc, il existe une panoplie de centres. En fait, il existe des liens sur Internet qui sont intéressants. Donc, il y a entre autres Trouve ton centre, qui est vraiment tous les centres de thérapie au Québec. Donc, les thérapies, ça peut se faire en externe, ça peut se faire en interne. Les gens pensent toujours que ça coûte une fortune, ce n'est pas vrai. Il y a des excellents centres qui sont même des fois mieux cotés que les centres privés qui coûtent vraiment pas très cher. Il faut savoir aussi que les gens qui ont des enjeux financiers, comme par exemple le chômage, l'aide sociale, tout ça, souvent ça va être gratuit ou en tout cas à très faible coût. Je parle encore dans les milieux communautaires. Puis la liste d'attente n'est pas nécessairement plus longue. Il y a aussi quand c'est pour le jeu. L'Auto-Québec paye en tout ou en très grande partie aussi, parce qu'on sait que les gens qui sont en problème de jeu ont souvent des graves problèmes financiers également.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire que vous allez être parti 3 mois, là. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui disent, ah, ben moi, je consomme pas assez, ça peut bon sens d'aller là. T'sais, vous seriez surpris, là. Comme je vous dis, là, les gens qui ont des enjeux, ben, il y en a plein qui ne consomment pas nécessairement le matin et qui sont très fonctionnels. Je vous dirais, la majorité des gens, quand tu arrives là, qui disent, ah, moi, je pensais que j'avais des toxicomanes, là, comme on voit dans les plus grands reportages, puis c'est des gens comme eux, là, t'sais. Donc, on a une image, des fois, qui est surdimensionnée, là, de ce que c'est la dépendance. Donc, c'est des lieux qui doivent être reconnus là, par des instances. Donc, c'est très bien géré, c'est sécuritaire. Donc, là, dépendamment de votre état, mais tu sais, ils vous évaluent tout ça. Il y a les centres de réadaptation en dépendance. Ça,
Oui.
c'est Alex. Ça, c'est vraiment important de savoir. Ça, c'est gratuit. C'est souvent en lien avec les CLSC, centres de réadaptation en dépendance. Ça, c'est des suivis en externe gratuits. Et là, ce qu'il faut vraiment que les gens sachent, c'est que même si c'est affilié au CLSC puis au système de santé, c'est un dossier indépendant. Ça veut dire que quand vous allez au centre de réadaptation en dépendance, votre médecin n'a pas accès à votre dossier. Votre travailleur social, votre agent d'approbation, etc., etc., ne peut pas avoir accès à ce dossier-là. C'est un dossier qui est complètement indépendant de votre dossier médical, de votre dossier de santé et services sociaux. Donc, ça, c'est rassurant pour bien des gens parce que des fois, les gens disent, ben là, moi, je ne peux pas donner l'heure juste parce qu'on sait aussi que des fois, les comportements de consommation peuvent amener d'autres enjeux. Puis pour les gens, ben, des fois, il y a une honte qui vient avec ça. Il y a une peur aussi de perdre l'emploi, de perdre autre chose. Donc, il n'y a pas aucun danger. C'est des professionnels, c'est gratuit et c'est un dossier confidentiel et complètement indépendant de votre autre dossier médical et autre.
Et rapidement, là, si on a des enjeux de consommation de drogue.
Oui, ben c'est ça. Mais en fait, c'est toutes les mêmes ressources. Il y a aussi drogue, aide et référence. Il y a un 800, il y a une ligne là, 24-7, il y a un 800-265-26-26. Et je tiens aussi à dire que pour les proches, parce que c'est aussi très difficile d'être un proche de personnes qui ont un enjeu de dépendance. Puis on sait que la dépendance, des fois, ça va mieux, puis des fois, il y a des rechutes, etc. Fait qu'il y a Al-Anon, qui est pour les conjoints de personnes qui consomment. Il y a Alateen. Puis il y a souvent aussi plein de groupes de
Alateen, c'est pour
soutien.
les enfants, je pense, hein, c'est ça?
Excuse-moi,
Oui.
adolescent,
Adolescent, oui.
teenager. Ouais. Donc, c'est ça, excuse-moi. Puis oui, effectivement, des fois dans les CLSC aussi, il y a des groupes d'entraide, si vous appelez aussi dans les centres de réadaptation en dépendance. Puis vous pouvez demander un suivi pour vous-même, pour vous aider là-dedans. C'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment je mets des limites, où est-ce que, tu sais, jusque où. C'est la même chose quand c'est des enjeux liés au jeu compulsif. Tu sais, je donne de l'argent, j'en donne pas, tu sais, tout ça, tu sais, ça pose des questions vraiment grandes. Tu sais, moi, mais je l'aime, mais là, je trouve ça vraiment difficile, ça a vraiment un impact. Et comment je mets une limite, comment, bon, toutes c'est des questions qui sont très pertinentes, qui sont importantes, t'sais. Puis, si on le dit, quand une personne a un problème de consommation, ça affecte au moins 10 personnes autour. Donc, c'est pas banal, puis
C'est
c'est
pas
pas
mal.
pour culpabiliser les personnes qui ont un enjeu. On le sait, c'est complexe,
C'est
puis la
complexe.
personne elle-même, la honte,
Ben,
c'est
on va devoir s'arrêter là-dessus. Marie-Claude Joannis, écoute, notre dernière chronique de la saison. On se revoit l'an prochain. Ben, merci
Alors,
beaucoup.
bon été! En bonne sobriété. Puis maintenant, là, c'est possible de prendre du sans-alcool partout. Il y en a du choix, c'est bien.
Tout à fait.
Alors, bon été, en sobriété à tous.
Parfait. Alors nous, en deuxième partie, on va aller au cinéma, mais avant, on va parler de portraits d'écrivains et d'écrivaines du Québec.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Alors, on va aller au cinéma dans cette deuxième demi-heure, mais avant, on reçoit Mathieu Lacat. On va parler d'auteur, d'autrice, en fait d'écrivain, d'écrivaine du Québec, parce qu'il nous propose un ouvrage assez spécial, un ouvrage qui s'appelle Portrait de plume, regard d'un peintre sur la littérature québécoise. Mathieu Lacat, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, comme c'est ta première visite à notre émission, on demande toujours à nos invités quels pronoms et quels accords on utilise.
Ah, il, c'est bon.
Et c'est bon pour
Ouais,
toi. Alors, qu'est-ce que c'est, Portrait de plume?
ben, en fait, Portrait de plume, un peu, c'est une lettre d'amour à la littérature québécoise. Simplement, c'est ça. À la base, ça a commencé par une exposition. Parce que je peins beaucoup de portraits, j'ai décidé de peindre des portraits d'écrivains québécois et d'en profiter pour rencontrer des idoles. Michel-Marc Bouchard, Michel Tremblay, je ne vais pas tous les nommer, mais en tout cas, pour moi, c'était cette occasion-là. Et aussi de voir un peu ce qui dégage, qu'est-ce qu'on peut percevoir de leur personne, de leur univers en les rencontrant. Alors, j'ai pris des photos, j'ai travaillé, j'ai dessiné au fusain. Ensuite de ça, j'ai élaboré les portraits qui ont été présentés à Montréal l'année passée. Ensuite de ça, j'ai écrit des textes pour accompagner les toiles et c'est devenu un livre. Ça fait boule de neige depuis ce temps-là. Là, ça cesse de se métamorphoser, de scier entre peinture et littérature.
Avant de, ben en fait, oui, avant d'aller plus loin, parce que je veux parler des textes, mais allons-y. Comment as-tu choisi les écrivains et les écrivaines?
Je suis allé par quelques coups de cœur d'abord et j'ai aussi demandé aux écrivains que je rencontrais s'il y avait des suggestions à me faire. Donc, j'en ai rencontré que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc, j'ai lu, j'ai relu des livres, j'ai exploré. Pour moi, ça a été vraiment un travail de recherche en même temps parce que je n'étais pas si calé en littérature québécoise au départ. Alors, ouais, c'est comme ça que j'ai élaboré. C'est pas systématique, c'est pas. Je prétends pas avoir fait quelque chose qui représente parfaitement la littérature québécoise, comment la représenter de toute façon, mais je suis allé par mes affinités, je dirais, et par un souci de diversité.
Ce que j'ai remarqué, c'est que le style que tu utilises pour parler des écrivains et des écrivaines, j'avais l'impression que tu t'inspirais du style de l'écrivain ou de l'écrivaine que tu avais peint et que tu décrivais dans ton texte.
Oui, je l'ai fait à plusieurs occasions dans le livre. Par exemple, Marie-Claire Blais, j'ai écrit une seule phrase
Tout
qui
à
est
fait.
très, très longue. Ouais. J'ai aussi écrit un poème un peu à la manière de Gaston Miron. C'est pas un pastiche, mais en tout cas, j'aime bien faire des clins d'œil. Je le fais en peinture. Alors, pourquoi pas le faire en littérature? C'était quelque chose d'amusant pour moi de faire des clins d'œil.
Alors, qu'est-ce que tu as fait en premier, les portraits ou les textes?
Les portraits.
Et pourquoi?
Parce que au départ, c'était une exposition, donc le
Ouais.
portrait, c'était l'objet. Ensuite, j'ai écrit les textes pour les accompagner. Et quand est venu le temps de faire produire le livre, ce qui n'était pas prévu au départ, là, j'ai retravaillé les textes dans une optique davantage de parler de l'œuvre des écrivains et moins de la rencontre. Parce que au départ, pour les portraits, j'avais vraiment parlé beaucoup de la rencontre, comment ça s'était déroulé, le contact. Et pour un livre, je trouvais, ben, avec la maison d'édition, on s'entendait que c'était peut-être moins intéressant. Donc, on a vraiment mis l'accent sur l'œuvre de l'écrivain, ma perception, ma lecture. Donc, tout ça s'est fondu dans l'ouvrage.
Plusieurs écrivains et écrivaines queer se retrouvent dans ce livre. C'est important pour toi, les écrivains et écrivaines queer, que ça est-ce que ça faisait partie du choix?
Ben, oui, c'est incontournable, c'est ma réalité. Donc, c'est ça. Fallait en parler parce que ben, c'est les univers qui résonnent le plus avec moi. Moi, quand j'ai vu les premières pièces de Michel-Marc Bouchard, adolescent, ça a été vraiment un choc. Où je me souviens, juste avant la pandémie, j'ai vu Tom à la ferme dans la version portugaise à l'usine C. C'était
Fabuleux, ouais.
électrisant. Je veux dire, je suis sorti de la salle, je sentais plus le sol sous mes pieds. C'était vraiment un choc d'une puissance à la fois sensuel, horrible, tout ça mélangé. Alors, ouais, c'était incontournable de peindre Michel Marc. D'ailleurs, je l'ai repeint récemment en très grand format que je vais présenter à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, une expo collective qui s'appelle XL6.
Ouais.
Alors, un très grand portrait de lui avec une forêt en feu derrière, des loups, un nu. En tout cas, ça va être une œuvre assez impressionnante, je pense.
Tes portraits sont très intéressants. On voit souvent dans les visages des gens, on voit une partie de leur histoire. On dirait qu'une ride va devenir une histoire. On va reconnaître le passé de la personne. Non, pas le passé des rides, mais le passé, l'histoire de la personne. C'est comment tu t'y prends? Comment tu choisis? Comment tu fais ça?
Moi, j'aime la texture. Donc,
Oui.
la texture des visages, les rides, c'est de la texture. Donc, tout ce qui accroche les couteaux, les pinceaux, pour moi, c'est expressif. Ça trahit. Ben, j'essaie en fait de trahir ou d'exprimer la psyché de la personne à travers ces accidents-là de peinture. Donc, je suis vraiment pas dans une démarche où je vais accentuer le joli ou le lisse, gommer les rides ou tout ça. Non, au contraire, moi, je les accentue. J'aime la brutalité des faits plastiques comme la texture. Et pour moi, c'est qu'un visage, c'est un paysage, en fait.
Puis des fois, tu leur donnes un grand coup de vent aussi, hein? C'est assez, oui.
Oui, je vais les dissoudre un peu. je me permets des libertés. Mais tu sais, je ne suis pas dans un style de portrait qui est très nécessairement flatteur toujours. Je veux vraiment créer des œuvres qui soient expressives, qui trahissent l'esprit de la personne, quitte à les froisser.
Est-ce que tu as eu des gens qui étaient froissés?
Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Je peux pas nécessairement raconter toutes ces histoires-là, mais c'est arrivé à plusieurs occasions. Et c'est pas grave parce que dans le fond, je peins pas nécessairement ces portraits-là pour le sujet, pour la personne que je représente. Ça s'adresse à tout le monde. Et c'est ma vision. Et puis aussi, on peut faire 1000 portraits d'une seule personne. Donc, c'est toujours un exercice riche.
Ça va me permettre de retourner un petit peu en arrière.
Oui.
Parce que tu as publié l'an dernier, chez le MÉAC, l'invention d'un visage. Et effectivement, le visage, on voit que c'est un visage qui a été un peu décomposé, si on peut se permettre, un petit peu,
oui.
Hein, un petit peu dans un coup de vent aussi.
Mm-hmm.
Et là, c'est intéressant parce que, si tu me permets un petit résumé rapide, à la suite d'un accident, Antoine Aymard est atteint de prosopagnosie. Alors ça, c'est un trouble neurologique empêchant la reconnaissance des visages.
Oui, ça existe vraiment.
Oui, oui. Oui, j'ai fait une petite recherche justement pour, parce que je dis, ça existe-tu vraiment ça? Et là-dedans, on retrouve tout un univers et moi, je t'ai reconnu là-dedans. Je te connais pas tant personnellement, mais pour mm-hmm. t'avoir entendu, je t'ai reconnu.
Oui, bien, c'est mon jardin, la peinture. Donc, l'art du portrait, c'est au cœur de ce roman-là. Alors, pour moi, j'ai exploré des thèmes qui m'étaient chers, mais que je connais bien. Donc, tout ce qui est le travail créateur du peintre, pour moi, c'est ça qui m'intéressait d'explorer. Et aussi, je voulais écrire une histoire où la capacité de peindre du personnage soit ça qui dénoue l'histoire, qui soit le moteur et qui dénoue l'histoire. Parce qu'il y a des grands exemples de romans où le personnage principal est... où il est question de peinture, mettons le portrait de Dorian Gray, qui est extraordinaire, mais c'est pas le fait de peindre qui va être le moteur de l'histoire, c'est le pacte initial. Oui. Alors moi, je voulais écrire une histoire où ça soit le fait de peindre. Et aussi, il y a une histoire dans le passé, donc Antoine Aymard, c'est l'époque contemporaine, mais il y a aussi une histoire il y a 100 ans, où un autre peintre va créer un portrait, il y a une histoire amoureuse là-dedans, et les deux époques vont s'entremêler. Donc c'est un roman très, très complexe, comme on a dit, pour un premier roman, et j'ai eu d'excellentes critiques, d'excellents commentaires. Je suis vraiment content de cette aventure-là, et je travaille sur un autre maintenant.
Mais justement, parlons-en de cet autre roman, parce que je peux dire que dans l'invention d'un visage, c'est quand même un roman qui a une très bonne thématique queer à nouveau, puis ouais. On comprend que c'est important pour toi, c'est ton univers. Le prochain?
Le prochain aussi, mais avec des femmes.
Avec des femmes?
Ouais.
Aïe.
Ouais, je me mets dans la peau d'une domestique des années 50 qui a habité dans les cantons de l'Est. C'est en dehors de moi, mais en même temps, il y a des résonances parce que, ouais, effectivement, c'est une femme qui est amoureuse d'une autre femme. Et pourquoi je peins cet univers qui n'est pas nécessairement le mien? En fait, c'est que j'utilise les souvenirs de mon mari, les souvenirs de sa vieille tante. Sa tante, en fait, c'est elle, c'était une domestique, donc elle avait vraiment pas beaucoup d'argent. Elle a économisé beaucoup et à son décès, elle a légué à mon mari une petite somme qui a fini par payer mes études universitaires en arts plastiques à l'Université Concordia. Donc, c'est un peu une espèce d'hommage tardif que je lui fais en écrivant, en inventant une histoire autour d'elle comme personnage principal. Elle qui était analphabète, eh bien, je lui ai écrit un roman.
Wow. Alors, tu pars de la peinture à la littérature. Combien de temps maintenant tu dois mettre aux deux là, parce que ça parce que la peinture, c'est quelque chose qui est important pour toi, tu gagnes ta
oui,
vie
oui,
avec ça.
Oui, c'est très difficile de partager mon temps, mais je fais quelques journées, j'écris, quelques journées, je peins. C'est toujours une espèce de danse où je me sens coupable de délaisser l'un pour l'autre, mais en même temps, c'est ce que j'aime faire, j'ai envie de continuer les deux, alors j'ai pas le choix que de danser.
Et ce nouveau roman, ça va être quand penses-tu que ça va être publié?
Ah, je sais pas. J'ai une centaine de pages de mon premier jet, mais je pense que ça va être au moins 300, peut-être 400 pages. Donc,
ouf!
Ouais. Puis il y a souvent de l'attente avant la publication, donc je pense que ça va prendre un certain temps encore.
Quelques années encore. Et si on veut voir tes œuvres, donc tu vas exposer ton œuvre de Michel-Marc Bouchard?
Oui, à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal à compter du 20 juin. Ça va durer tout l'été. Une grande expo collective, c'est gigantesque, une trentaine d'artistes. Sinon, à la galerie Salon Art Club à Montréal, sur l'avenue Laurier, je suis là en permanence, j'ai toujours des œuvres présentées là.
Bien, je rappelle à tout le monde, donc, Portrait de plume de Mathieu Lacca, qui est aux éditions du Passage. Je rappelle aussi l'invention d'un visage chez le MÉAC de Mathieu Lacca, c'est disponible en librairie, sinon vous le commandez, ça se fait très facilement. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci de m'avoir invité.
Merci.
Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau.
Ça Salut Donald.
Salut,
pendant que tu installes ton micro.
Ben oui, ça va, je suis correct.
Alors, on va terminer notre regard sur les films étrangers queer. Et on y va, on commence donc quelque part en Europe ou on va où là?
On s'en va au nord de l'Europe, on s'en va en Suède, pays que je m'en vais visiter d'ailleurs dans 3 semaines.
Ah oui, chanceux.
Alors écoute, c'est un film qui s'appelle « Les joies de la famille ». En suédois, ça s'appelle « Patrick 1,5 ».
Mais tu le dis pas en suédois, tu le dis quand même en québécois.
Oui, écoute, j'ai pas d'accent suédois, je sais pas ce que ça donne. Alors, pourquoi un tel titre « Patrick 1,5 » Alors, c'est simplement parce que l'histoire est la suivante. Goran, un Suédois trentenaire, et son mari, le très viril Sven, s'installent dans leur maison de banlieue. Ils font connaissance avec leur nouveau voisin et leur annoncent une bonne nouvelle. Leur demande pour adopter un enfant a été validée. Bientôt, ils reçoivent un papier révélant le prénom de l'enfant, qui est donc Patrick, et son âge, qui est 1 an et demi, d'où le 1,5. Mais la virgule n'est pas située au bon endroit sur les documents.
Non.
Et c'est plutôt un adolescent de 15 ans au passé de délinquant qui sonne à leur porte.
Quel beau cadeau!
En effet, les choses ne se déroulent pas du tout comme prévu, évidemment, pour le couple et leur relation sera mise à rude épreuve. C'est une bonne satire sociale. C'est un film rafraîchissant, drôle, moderne. Les acteurs sont excellents. Ça a été réalisé en 2008 par une femme très talentueuse et reconnue en Suède qui s'appelle Ella Lemhage. Et concernant les acteurs, je vais vous parler d'un seul acteur, celui qui fait Goran. Il est incarné par Gustav Skarsgård. J'espère que ma prononciation est bonne. Alors, il faut savoir que la famille Skarsgård, c'est une famille reconnue internationalement. Il y a d'abord le père Stellan Skarsgård, que l'on a pu voir dans de nombreuses productions, parmi lesquelles Amistad de Steven Spielberg et Good Will Hunting de Gus Van Sant. Et la plupart de ses fils sont aussi acteurs, notamment Alexander Skarsgård, qu'on a pu voir dans Big Little Lies de Jean-Marc Vallée, où il incarne l'abominable mari de Nicole Kidman, et Bill Skarsgård, qui interprète l'affreux clown Gripsou dans les films Hit, basés sur les romans de Stephen King. Alors, Gustave, c'est le seul acteur de la famille à ne pas être connu ailleurs qu'en Suède, mais cela pourrait changer bientôt, puisqu'on le retrouve au générique de Oppenheimer, paru l'an dernier. Alors, retenez ce titre, Les joies de la famille, c'est vraiment très bon, ça existe en DVD.
Don't cry for me, Argentina. On va en Argentine.
On s'en va en Argentine avec un excellent film LGBT qui s'appelle Vie brûlée. En espagnol, c'est Plata Quemada. C'est un film de Marcello Pinheiro, paru à l'an 2000, sur un scénario de lui-même et de Marcello Figueras, inspiré du roman de Ricardo Piglia. C'est une coproduction Argentine-Uruguay-Espagne et ça raconte l'histoire de deux amoureux, Néné et Angel, que tous surnomment les jumeaux, mais ils ne sont pas frères, mais plutôt amants et délinquants professionnels. Deux autres types leur proposent de participer au braquage d'un véhicule blindé qui transporte une somme d'argent considérable. Les jumeaux acceptent avec l'espoir que cette opération ravivra la fougue amoureuse qui les avait animés au début de leur relation. Naturellement, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. C'est un film qui se base sur des faits réels qui se sont passés à Buenos Aires, en Argentine, et à Montevideo, en Uruguay, entre le 28 septembre et le 4 novembre 1965, l'année de ma naissance, figure-toi. L'acteur Eduardo Noriega, qui incarne Angel, est assez connu en dehors de son pays puisqu'il tourne à l'occasion aux États-Unis et en France. Le film comporte des scènes de violence et de nudité masculine et ne condamne pas l'homosexualité des deux personnages principaux, loin de là, même s'il n'a pas été autorisé au moins de 18 ans, ce qui est un fait rare en Argentine. C'est une belle production à voir, donc, qui a été présentée à la Mostra de Venise et qui a obtenu le Goya du meilleur film étranger de langue espagnole.
Et avec le nouveau président argentin, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses anti-queer dans ce pays-là. Mais bon, passons.
C'est comme au Brésil, d'ailleurs. Hein?
Ouais. Alors, on va aller à Hong Kong maintenant.
On s'en va à Hong Kong, mais une production hongkongaise, oui, mais qui se déroule en Argentine. Ça s'appelle Happy Together. C'est un film qui... Je ne lui connais pas de titre francophone en passant. Je pense que c'est vraiment le seul titre qu'il a. L'histoire donc se déroule à Buenos Aires, en Argentine. C'est un film qui a reçu de nombreux prix, notamment à Cannes, le prix de la mise en scène, et au Hong Kong Film Award aussi, bien sûr. Le synopsis est le suivant. Ho Po Wing et Lai Yu Fai sont originaires d'Hong Kong. Un jour, ils décident de partir à l'aventure, très loin, là-bas, en Amérique du Sud, presque à l'autre bout du monde. Ils s'aiment parfois, se querellent souvent et se quittent irrémédiablement pour mieux se retrouver et repartir à zéro, comme ils tiennent tant à se le rappeler. Le cinéaste est parti du roman « De Buenos Aires Affair » de Manuel Puig pour écrire le scénario totalement original. En plus d'être acteur, Leslie Cheung, qui incarne Ho Po Wing, était aussi une figure majeure de la musique pop en Asie. Je parle de lui au passé puisqu'il souffrait de dépression clinique et qu'il s'est suicidé le 1er avril 2003 en se jetant du 24e étage du Mandarin Oriental à Hong Kong.
Quelle tragédie.
Ouais, il avait 46 ans. L'autre acteur, Tony Leung, a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour un autre rôle que celui-là dans le film In the Mood of Love. Donc, Happy Together est un très bon film que j'ai vu il y a plusieurs années, que j'avais bien aimé.
Allons en Allemagne maintenant?
Oui, là, on remonte dans le temps pour un film tourné en 1982. Écoute, à l'époque, ça s'appelait L'Allemagne de l'Ouest. c'est avant la chute du mur.
Ouais.
Donc... notre invité nous dit qu'il n'était pas né. Moi, oui. Et toi aussi.
Ah, je préfère ne pas répondre à cette question. Voilà. Je vais invoquer le premier amendement américain, tiens. Voilà.
Alors, c'est un film assez spécial. On pourrait le qualifier de drame expérimental. Ça s'appelle Querelle.
Ouais.
Et c'est basé sur le roman Querelle de Brest de Jean Genet. Mmh. C'est réalisé par Rainer Werner Fassbinder et c'est d'ailleurs son dernier film avant qu'il ne meure d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 37 ans.
Ah, on va lui donner son micro, Louis. Oui,
oui. Oui, je dis, c'est un classique.
C'est un classique.
C'est pas un film, c'est un fantasme.
C'est exactement, c'est ça. C'est expérimental. C'est une œuvre posthume, d'ailleurs, parce que ça a été présenté... C'est avant la fin du montage de Querelle qu'il est décédé, Fassbinder. Mm-hmm. C'est une œuvre posthume qui a été présentée à la Mostra de Venise en 82. C'est une production internationale, d'ailleurs, hein, puisque le réalisateur est allemand. Les acteurs principaux, Brad Davis et Franco Nero, sont respectivement états-uniens et italiens. L'actrice principale, Jeanne Moreau, est française. Et l'acteur de soutien, Anno Polch, est autrichien. Alors, pour l'histoire, écoutez, c'est assez compliqué à expliquer. Alors, je vous fais simplement une lecture du synopsis tel qu'on peut le trouver sur le web. Ce film relate l'histoire d'un jeune marin à la sexualité en mutation. Querelle qui débarque à Brest. Beau et viril, il attire son supérieur, le lieutenant Seblon, qui est joué par Franco Nero. Il fréquente la Feria, qui est un bar à prostituées mené par Madame Lisiane, qui est la grande Jeanne Moreau, qui est la maîtresse de Robert, le frère de Querelle. Querelle veut coucher avec Lisiane et sait qu'il doit d'abord se soumettre au hasard et jouer au dé avec Nono, le mari de Lisiane. Ça fait assez compliqué comme histoire. S'il perd, il doit se laisser sodomiser par Nono. C'est le prix à payer pour coucher avec sa femme Lisiane.
Il perd volontairement
au dé, voilà. Et se donne aussi à un policier. Il fréquente un jeune assassin, Gilles. Alors, Querelle a lui aussi tué auparavant son complice dans un trafic d'opium. Alors ça, c'est le synopsis. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez particulier comme histoire. Et pour ce qui est du très beau et très talentueux acteur Brad Davis, qui fut la vedette quelques années auparavant de l'excellent film L'Express de minuit, Midnight Express, certains diront que Querelle a contribué à tuer sa carrière d'acteur. Est-ce que c'est vrai? On ne le saura jamais, mais une chose est certaine, c'est qu'après ce film-là, il ne tournera plus qu'une poignée de téléfilms et quelques productions de série B, voire même de série Z. Brad Davis devient séropositif en 85 et décède en 91 à l'âge de 41 ans. En conclusion, on peut dire que Querelle n'est vraiment pas un film grand public, mais pour les amateurs et les connaisseurs de films LGBTQ, ça demeure un incontournable.
On pourrait souhaiter que Querelle de Robert Val...
qui était un très bon livre.
De Kevin Lambert, pourrait être mis en cinéma. Il nous reste quelques minutes, on va terminer donc cette chronique, oui.
Oui, alors un dernier film est vraiment très, 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 très bon. C'est un film du réalisateur anglais Francis Lee. C'est un drame romantique qui s'appelle « Seule la Terre ». En anglais, c'est God's Own Country. Moi, je vous suggère de le voir en français parce que c'est tourné en anglais, mais c'est très, comment dire, un accent très, très british campagne. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très dur à l'écouter en anglais.
Je pense, là, ouais.
Un peu mêlé avec du galéique et tout ça. Ça raconte l'histoire d'un jeune fermier solitaire du Yorkshire et de sa rencontre avec un ouvrier agricole roumain qui est recruté pour pallier le retrait du père devenu invalide. Majoritairement salué par la critique qui le compare beaucoup au chef-d'œuvre qu'est Brokeback Mountain d'Ang Lee, tout en lui reconnaissant un traitement très différent. Les thématiques de l'homosexualité et de la ruralité, le film constitue le premier long métrage de son réalisateur. Le jeune acteur Josh O'Connor, qui interprète brillamment Johnny, qui est un fermier solitaire dont le quotidien est marqué par le dur travail auprès des bêtes, des escapades solitaires au bar de la ville voisine et de brefs et froids ébats avec de jeunes hommes inconnus. Mais alors que la saison de l'agnelage approche et que la santé du patriarche décline, le seul candidat à postuler pour travailler à la ferme est un saisonnier roumain, Jorge Ionescu, qui est joué par le superbe acteur roumain Alec Secareanu. Bon, j'espère que je le prononce comme il faut.
On va donner un 10 sur 10 pour celui-là, oui. Oui,
c'est ça. Et tu peux donner un 10 sur 10 pour la beauté de l'acteur aussi. Je ne me gênerai pas pour le dire.
Non, tu t'es jamais gêné pour dire
non,
ces choses-là.
Non, non, en effet. Alors, au départ conflictuel, leur relation finit par basculer et de nouveaux sentiments inattendus apparaissent. On ne sait rien de la vie privée de l'acteur roumain Alec Secareanu, mais il a déclaré dans la presse roumaine que ce film est nécessaire, et en particulier pour la Roumanie où il n'existe pas de reconnaissance pour les couples homosexuels. Le film, tout comme les deux vedettes, obtient tout plein de nominations et de prix un peu partout dans de nombreux festivals. C'est vraiment un très beau film à voir. Ça existe en format DVD et pour l'anecdote, c'est la compagnie TV en film qui le distribue au Québec.
Ben, il me reste à te remercier, Donald, pour toute cette belle année,
cette belle saison
de chronique.
Ça a été très agréable.
Tu vas revenir l'an prochain.
Absolument.
On va annoncer un peu des changements à cette émission, mais pour le moment, on va attendre, on va annoncer ça en temps et lieu.
En temps et lieu.
Mais on peut peut-être le dire, il y aura un lundi culture queer qui s'en vient
à partir de septembre.
À partir de septembre. Mais une fois par mois, on va faire de la culture pendant une bonne demi-heure.
Oui, ça va être très bien. J'ai bien hâte.
Ben, merci beaucoup à toi.
Merci. Salutations.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, alors, il est maintenant assez... Ben, je dois le dire, il est 17h54 en ce lundi. J'ai le droit maintenant d'annoncer une certaine chose. Alors, je profite des dernières minutes de cette émission pour annoncer les premiers récipiendaires des prix Action LGBTQ+, du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Québec. Donc, vous avez le scoop ici. Alors, le prix Hommage a été remis à Dominique Dubuc, professeur de biologie au Cégep de Sherbrooke. Dominique Dubuc est engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie depuis plus de 25 ans. Culminant de nombreuses réalisations novatrices, elle a su mettre en œuvre des actions dotées de retombées pérennes. Outre son implication au sein de comités portant sur l'équité, la diversité et l'inclusion des personnes LGBTQ+, elle a été membre fondatrice de l'Association des mères lesbiennes, aujourd'hui connue comme la Coalition des familles LGBT+. Elle est présidente du Conseil québécois LGBT de 2011 à 2013. Dominique Dubuc est sollicitée comme formatrice et conférencière autant au Québec qu'à l'international. Son engagement au bénéfice des communautés de la diversité sexuelle et de genre dépasse largement les attentes de son mandat et de sa mission éducative. Elle œuvre à influencer de façon durable les décisions et les politiques pour faire du Québec une société plus inclusive et plus respectueuse des personnes LGBTQ+. C'est pourquoi Dominique Dubuc reçoit le prix Action LGBTQ dans la catégorie Hommage. J'ai le temps de vous dire que la catégorie Milieu de vie en confiance, eh bien, c'est Gris National, qui reçoit ce prix. Pionnier et référence en matière de démystification des orientations sexuelles et des identités de genre, le Gris National réunit 5 groupes de recherche et d'intervention sociale, Gris, dont l'œuvre rayonne depuis plus de 30 ans sur l'ensemble du territoire québécois. Avec plus de 400 bénévoles à travers la province, il joint chaque année plus de 37 000 personnes. L'action pérenne de l'offre de services des Gris sensibilise les jeunes d'aujourd'hui à la diversité sexuelle et la pluralité des genres pour en faire des leaders de demain en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. À l'ampleur, Et au large éventail des initiatives mises de l'avant par le Gris National s'ajoute la très grande richesse de son réseau de partenaires qui lui permettent d'œuvrer dans plusieurs milieux de vie, dont les milieux scolaires, pour les rendre plus sécuritaires et inclusifs au bénéfice des personnes LGBTQ+. En raison de la feuille de route impressionnante des réalisations du Gris National, le prix Action LGBTQ+, dans la catégorie milieu de vie, en confiance, lui est décerné. Alors, c'est un petit scoop qu'on avait à l'émission aujourd'hui. Ces prix ont été remis il y a quelques minutes à Québec dans le cadre d'une cérémonie et nous allons en parler plus en profondeur dans les prochaines semaines.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur.
Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 79, en ce 3 juin 2024. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous, comme on l'a dit tout à l'heure, heurciel@gmail.com. Merci à l'équipe Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley qui fait la musique thème, Shirley Ormelette qui est chef de contenu numérique. Merci à Jean-Sébastien Lesliberté, chef de diffusion de Canal M, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vie et Voix de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous remercie d'être là. On se revoit, on se reparle la semaine prochaine.